On est dans Philippiens chapitre 1, versets 6 à 8. On va regarder l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu du début à la fin, quand Dieu commence une chose, il l'a finie. Et nous voyons la confiance que Paul a à l'égard des Philippiens, de ce que l'œuvre qui avait été commencée, c'est vraiment une œuvre de Dieu, et puisque c'est une œuvre de Dieu, il va la finir. Nous avons vu la semaine dernière qu'il se réjouissait de la part que prenaient les Philippiens déjà à l'Évangile. Quand on se convertit à Dieu, on veut commencer à prendre part. On veut participer à l'œuvre. On n'est plus spectateur. Mais on doit être convaincu que l'œuvre est l'œuvre divine. Nous participons à une œuvre d'origine divine. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Romains chapitre 11, verset 36. Donc je t'invite à tourner dans Philippiens chapitre 1, verset 6 à 8. On va le lire. Vous l'avez aussi sur votre feuille. Mais j'encourage à le suivre directement dans la Bible aussi. Ce qu'on voit ce matin. Donc, si vous n'avez pas de Bible, si vous n'avez pas votre Bible, ben, il y a des Bibles ici, vous pouvez emprunter, vous pouvez aussi en acheter à coup, on les vend à coup, ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est pour les rendre disponibles. Donc, ça coûte à peu près 5 euros pour les acheter et les faire venir ici en Guyane. Philippiens chapitre 1, verset 6 à 8, et on lit ensemble, ceux qui veulent lire avec moi, on lit bien haut. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Dieu créateur, c'est toi le Dieu actif et Seigneur Dieu qui crée les choses, Seigneur créatif. Seigneur Dieu, merci pour ton œuvre de création, mais merci aussi pour ton œuvre de salut. Et Seigneur, une fois que tu le commences, tu le complètes, Seigneur Dieu. Merci pour cela, merci pour ces paroles de la Bible, Seigneur Dieu. Aide-moi à bien communiquer droitement le sens de ta parole, on te prie, que les cœurs puissent être réceptifs. Seigneur, convainc quiconque ne te connaît pas encore comme Seigneur et Sauveur, mets ta conviction sur leur cœur par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Rends-les misérables dans leurs péchés, Seigneur Dieu, on te prie. Convainc-les de la justice disponible en Jésus-Christ, Seigneur, on te supplie. Seigneur, on te prie aussi de nourrir quiconque, Seigneur, est déjà venu à toi, Seigneur Dieu, on te prie que tu puisses te nourrir et fortifier leur cœur, on te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu nous a créés à son image. Et ce n'est pas surprenant, donc, que puisque notre Dieu est un Dieu qui est créatif, qui est actif, qui est un Dieu de vie, il a engendré éternellement Jésus-Christ, là ça nous dépasse, mais le Père qui existe en lui-même a donné au Fils d'exister en lui-même. Alors il y a une éternelle génération qui, ça nous dépasse, Jésus n'a pas eu de commencement, il n'a pas été créé au sens propre du terme, mais il vient du Père, éternellement. Et Dieu a créé le monde, et Dieu nous a créés. Et Dieu veut aussi que nous soyons créatifs et actifs. Proverbe 12, 27, ça dit « Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. » Et justement, quand on ne fait pas grand-chose, quand on perd notre temps, on s'adonne à ce qui est mal. Dieu nous a créés pour être actifs, pour construire, mais pas simplement... Il y a des personnes qui sont très travaillantes, mais ils travaillent très fort dans ce monde, mais pas pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, hein, l'homme riche dont l'âme allait être redemandée le soir, cette nuit-là, cette nuit-même-là, il avait été riche pour lui-même, mais pas pour Dieu. On peut être très travaillant, c'est bien d'être travaillant, mais il faut être travaillant aussi à la bonne chose. Et ça, c'est de croire en Jésus-Christ et de le servir. Et donc, Dieu ici nous montre qu'il fait une œuvre. Proverbe 12, donc 27, on l'a lu. L'œuvre divine, premièrement, l'œuvre divine, nous voyons. Premièrement, l'œuvre divine. Vous n'avez pas une. Oui, c'est sur. J'aimerais avoir une autre feuille. Bon, excusez-moi pour ce contretemps. L'œuvre divine. Premièrement, l'œuvre initiale. L'œuvre initiale. Ce que Dieu a commencé. Celui qui a commencé. L'œuvre initiale, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, c'était le doigt de Dieu. Paul était convaincu de cela parce qu'il voyait l'œuvre qui se manifeste dans la vie des Philippiens. C'était donc le doigt de Dieu qui se manifestait. Cette manifestation-là, il ne fait pas en être assuré au sens propre pour chacun individuellement, mais il voyait dans le groupe vraiment clairement l'œuvre de Dieu. Et il était convaincu donc que celui qui a commencé en eux cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Okay? Nous, on ne peut pas voir dans les cœurs. Dieu seul peut voir les cœurs. Dieu voit la différence entre quelqu'un qui fait une profession, qui le fait peut-être faire beaucoup de choses, dire beaucoup de choses, mais qu'à l'intérieur, il n'y a vraiment rien de changé, comme Judas. Hein? Aucun des disciples le suspectait d'être un faux disciple. Mais il y a quand même la caractéristique des vrais disciples qui va émaner. Donc dans un groupe, Paul était convaincu pour le groupe, mais il ne pouvait pas dire formellement pour chacun, parce qu'il ne pouvait pas voir le cœur. Quels étaient ces manifestations ou ces caractéristiques qui ont développé, parce qu'il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Les Philippiens s'étaient impliqués, comme on l'a vu la semaine dernière, et avaient pris à cœur la situation de Paul, qui était en prison, parce qu'il prêchait l'Évangile. Et eux-mêmes étaient motivés à la faire connaître, ils portaient la parole de vie. Et il était impliqué donc, et ils avaient le cœur touché par l'amour et l'intérêt qu'ils avaient pour l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul souffrait pour l'Évangile. Cet amour-là, ça venait de quelque part. C'est Dieu qui l'avait créé, qui l'avait commencé à produire en eux, Jean 13. On aurait pu commencer avec 1 Jean 4, 7 quasiment, ça aurait été un peu plus logique l'ordre. Bon, on va faire cela, on va changer. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Quand on se convertit, on avoue qu'on est un cœur égoïste, un cœur naturellement qui s'aime soi-même au dépourvu des autres, digne de haine et nous haïssons les uns les autres, comme nous dit l'apôtre Paul dans Tite 3, 3. Mais quand on se convertit, là, on commence à apprendre à aimer réellement. 1 Pierre chapitre 4, pardon, 1 Pierre, 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Est-ce que j'ai un volontaire pour lire 1 Jean chapitre 4, verset 7? Oui.
Vas-y. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres par l'amour et de Dieu. Et quiconque aime et aime Dieu et connaît Dieu.
Alors c'est une caractéristique. Dieu est amour. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc il nous dit, aimons-nous les uns les autres. C'est un commandement, en même temps une caractéristique qu'un commandement. Comment est-ce qu'on apprend à aimer? Ben, on reconnaît d'abord que verset 16, 1 Jean 4, 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. On a reconnu que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. Au verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour, verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire, victime propitiatoire pour nos péchés. Alors, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu qui fait que, waouh, non. Comme Romains 6 nous dit, lorsque nous étions encore, Romains chapitre 5, verset 6 et verset 8, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, quand nous, on était encore haïssables, dignes d'être trahis, nous haïssons les uns les autres, Dieu, lui, il nous a aimés. Et quand on se reconnaît pécheur, perdu, digne de elle-même à cause de nos péchés, puis nous haïssons les uns les autres, que même nous, on démontre de la haine à travers nos vies, oui, pas qu'on ne peut pas aider nos voisins, mais en fin de compte, on choisit qui on aime, dépendamment de ce qu'on peut en retirer ou pas souvent, tandis que l'amour de Dieu, ce n'est pas pour aimer pour ce qu'il peut en retirer, c'est choisir d'aimer avec un sacrifice aussi. Et Christ s'est sacrifié pour nous aimer. Et quand nous convertissons pour accepter un si grand amour, eh bien là, il commence à nous apprendre à aimer. Où on va s'aimer les uns les autres, on est commandé de s'aimer les uns les autres, mais on est commandé aussi d'aimer nos ennemis. Là, à travers le temps, il y a eu beaucoup d'exemples de chrétiens qui ont été persécutés, qui ont été maltraités et qui ont choisi d'aimer leurs ennemis, de prier pour eux, d'être gentils en retour. Combien de personnes s'est converti à travers ce témoignage-là, mais pas tout le monde. Il y a bien des gens qui ont continué à persécuter. Et l'amour. Et Paul voit cela. Paul voit ces caractéristiques. Et donc il dit, je vois que Dieu a commencé en vous une œuvre. Là, vous avez un amour et un intérêt, parce que vous voyez que moi-même, c'est pour l'Évangile que je souffre, et vous participez quand même à l'Évangile, tout cela. Et je vois l'amour que vous avez. Jean 13, il dit qu'on avait allé inverser les deux, bah voilà, on y arrive. Jean 13, verset 33. Jean 13, 33. Qui aimerait lire 13, 34. Jean 13, 34. Un volontaire? Oui.
Je vous donne un commandement. Nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres.
Ah. Et le verset 35. Qui veut lire 35? Vas-y.
Parce que c'est tout ce qu'on est pour vous et vous aussi. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Très bien. C'est pas notre connaissance que l'amour va reconnaître que nous sommes ses disciples. Ah, il connaît beaucoup. Est-ce qu'il faut connaître la vérité pour être sauvé? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas notre connaissance de la vérité qui va faire qu'on va se démarquer du monde. C'est l'amour qui va en ressortir à ceci, au fait de s'aimer les uns les autres, au lieu de se mordre les uns les autres, au lieu de s'endurer les uns les autres, au lieu de simplement faire le minimum les uns pour les autres. Mais c'est vraiment un attachement de cœur. Et Paul commençait à voir cela dans les Philippiens. Donc il voit la loi de Dieu. Il dit, je suis persuadé de cela, il est juste que je pense ainsi de vous tous. Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense, la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. C'était une œuvre initiale, tu as commencé. Mais il ne l'a pas faite parfaite dès le départ, donc l'œuvre. Non, pas encore. Paix provisoire? Non. Une œuvre provisoire, ça veut dire une œuvre qu'il fait juste pour un temporairement, ensuite il va l'effacer? Non.
La paix.
Regardez, il commence quelque chose et il va la finir un jour. Mais là, à quoi? Peut-être je pourrais le dessiner comme ceci pour que vous compreniez. Là, il commence ici et il l'amène là. Et peut-être qu'il y a des... Là, il y a peut-être des montées puis ensuite des chutes, mais en général, quand même, il y a... Progressif. Bien sûr, il y a du temps que ça va prendre pour progresser. Bâtir un nouveau chrétien. Ça ne devrait pas être la même personne dans 5, 10, 15, 30 ans. J'ai été sauvé longtemps. Et je sais à quel point, combien long j'ai été à apprendre beaucoup de choses. Mais Dieu, dans sa patience, de progrès en progrès. Alors, ne nous décourageons pas. Il y aura encore beaucoup à faire. Réjouissons-nous que celui qui commence une chose, il va la finir. Il va travailler à travers, de progrès en progrès, et il ne va pas être découragé de ce qui reste à faire. Il va être content de ce qui a été fait et il va continuer. Il ne va pas s'asseoir sur ses lauriers. Ah oui, quelque chose a été fait. Non, il va dire, ok, il y a du travail à faire. Et donc, l'œuvre progressive, c'est une œuvre. Un œuvre, oui. Oh là là, je vais mélanger là. Hein? Les deux qui ont leur bac là. Un œuvre ou une œuvre? C'est une œuvre. Bon, je voulais juste voir si vous le saviez. Alors, une œuvre progressive, très bien. Savez-vous, on va tourner dans Genèse 1, voir, c'est le modèle de Dieu. Dieu a choisi de faire le monde entier comme ça. Dieu aurait pu tout créer, pouf, tout d'un coup, tout parfait. Hein? Il a la pluie, puis c'est vrai, j'ai pas fermé les fenêtres. Merci. Dieu a choisi de créer une façon, de nous donner un modèle. Il y a du travail à faire. Genèse 1, regardez dans Genèse 1, verset 1. Qui veut lire Genèse 1:1? Vas-y, Raymond.
Au commencement, Dieu créa Abel. Ciel et la
terre. Ah, là, c'est le grosso modo, là. Là, c'est le résumé de tout. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il dit au verset 2, qui veut lire verset 2? La terre était... Vas-y, Raymond.
La terre était infâme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle.
Alors, informe et vide. Informe et vide. Dieu a choisi de créer un peu comme un gros tas de matière. Un gros tas de matière noire dans les ténèbres, juste pouf! Mais Dieu avait des plans, est-ce qu'il va laisser les choses informes et vides? Non, mais là, pendant 6 jours, là, il va mettre de la forme et ensuite, il va la remplir. La forme, c'est dans les 3 premiers jours. Hein? Dieu sépare le premier jour. Il sépare la lumière avec les ténèbres. Il met de la forme. Ensuite, il va mettre de la forme un peu plus sur la terre. Il va séparer les eaux. Les mers avec les eaux dans le firmament, dans l'atmosphère. Il y a beaucoup d'eau dans l'atmosphère. Mais il en a fait une séparation claire avec Ensuite, le troisième jour, il sépare quoi? Oui, la mer avec la terre. Donc là, il forme les choses. Ensuite, il va la remplir. Il remplit la terre. Ben, il remplit le ciel avec les étoiles. Incroyablement nombreux de beauté. Et nous, on en voit très peu à l'œil nu. Toutes les milliards d'étoiles et de galaxies qu'il y a. Cinq, il remplit avec les plantes et les êtres marins et dans le ciel, les oiseaux. Le jour 6, il fait les animaux terrestres. Et en tout dernier, à son image, l'homme. Le mâle et la femelle, donc autant le monsieur que la madame, l'homme c'est générique. Et voilà, il l'a rempli, il l'a donné une forme, il l'a rempli, mais il a travaillé. Il aurait pu tout faire d'un coup, mais il a choisi. Il travaillait, ensuite se donner un jour de repos, quoi qu'il avait besoin, pour donner le principe du jour du repos. Ce modèle, Dieu le fait aussi à travers le salut. Il nous sauve. Mais ensuite, il commence à mettre de la forme, et le remplir de fruits, puis ensuite la perfection. Donc, ne nous soyons pas découragés. Quand on commence un projet physique, c'est peut-être le chaos, peut-être toutes choses, peut-être on doit détruire ce qu'il y a avant, commencer à mettre de la forme, ça prend du temps. Ne nous décourageons pas dans les projets qui ça prend du temps. À compléter. C'est le modèle que Dieu a choisi pour lui-même dans la création. Ne nous décourageons pas non plus dans nos vies personnelles. Il reste des choses à faire. Oui, Dieu travaille dans nos vies à mesure qu'on se laisse travailler. C'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Okay, ça parle vis-à-vis de vraiment avoir besoin d'avoir la vraie foi qui sauve. Mais aussi pour ceux qui ont la vraie foi qui sauve, de le laisser travailler dans nos vies. Et de nous sanctifier. Et de nous purifier. Maintenant, il reste une sorte d'œuvre. L'œuvre. Ah voilà, c'est rapide là. Là, vous le voyez venir. Parce que le mot est dans la Bible aussi, l'œuvre parfaite. Celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas pourquoi je fais ça. La rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Regardez dans Hébreu 12. Ce que Dieu commence, il le finit. Dieu ne laisse pas les choses à moitié. Moi, il y a beaucoup de projets qui ont été commencés dans ma vie. Il y en a quelques-unes qui ont été complétées avec le temps. Il y en a beaucoup qui sont en suspens. D'autres qui sont en train d'être travaillés. Je n'ai pas la caractéristique que tout ce que je commence, je finis. Mais j'y travaille. Et Dieu, lui, c'est une caractéristique. Tout ce qu'il commence, il finit. Verset 2, Hébreux 12, 2. Ensemble, ceux qui l'ont, lisons-le ensemble. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est le chef et le consommateur. Ça veut dire quoi ça? L'auteur et le finisseur. Il est celui qui a débuté et celui qui va finir la foi. Celui qui commence et celui qui achève le travail. Il est l'objet donc de la foi et quand on se confie en lui, c'est lui qui va compléter la chose. C'est c'est de lui, par lui et pour lui. Quand on se convertit, est-ce qu'on va dire au ciel, ah, moi je fais partie de ceux qui se sont confiés en Dieu. Bon, c'est pas faux, mais ça sera pas du tout cette emphase-là. Ça sera pas, regardez, moi, comment je me suis, moi, je suis venu à Dieu. Non, l'emphase va être celle-ci, que vous trouvez dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. Page 880. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Qui veut lire? Un volontaire pour lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Oui?
Car Dieu m'a dit, la lumière des ravisseurs des ténèbres a fait la lumière dans le cœur par terre, est-ce qu'on a la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ?
Ceux qui se convertissent réellement à Dieu, ils vont dire, c'est Dieu qui a fait briller la lumière dans mon cœur. C'est Dieu qui a fait ouvrir la lumière. Et c'est ce qu'il dit dans Jean 9. Jésus a dit, je suis venu afin que les aveugles voient et que ceux qui voient soient aveugles. Il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors quand on se convertit à lui, on réalise, c'est Dieu qui a ouvert mes yeux, c'est Dieu qui a fait briller la lumière dans mon cœur. Mais qui est responsable pour ceux qui périssent? Bah, regardez dans le contexte de Corinthiens 4.3, 2 Corinthiens 4.3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Pour les incrédules, Dieu condamne ceux qui refusent de croire. Jean 3, il dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Au ciel, personne ne va être seul à dire « Moi !» Non, ça va être « Lui, il va sauver par pure grâce. » Et ceux qui le refusent, Dieu va avoir entière raison à dire « Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils sont condamnés parce qu'ils refusent de croire. » Il préfère les ténèbres à la lumière. Et donc, là encore, il y a comment est-ce que les deux peuvent aller ensemble, qu'on puisse reconnaître que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, que c'est lui qui commence une œuvre et il la finit quand il la commence. C'est lui, quand il sauve quelqu'un, c'est lui qui est l'auteur de la foi et c'est lui qui est le finisseur, le chef et le consommateur de la foi. En même temps, on entend ce que Dieu dit sur le fait que Dieu condamne les incrédules parce qu'eux, ils refusent de croire. Eux, ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Et Dieu, il sait ce qu'on dit. Alors, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe que quand on se convertit, on lui donne le crédit. Et on donne le blâme aussi avec Dieu. On met le blâme pour ceux qui le rejettent. C'est sur eux. C'est pas parce que Dieu l'a pas fait pour eux. Connaissez-vous le paradoxe? Et j'en connais des gens qui disent, ah, c'est pas juste. Judas était l'homme de perdition parce que Dieu n'a pas choisi Judas comme il a choisi les autres. C'est Dieu en fin de compte qui est la cause que Judas était méchant comme il était. Oh là là, quel blasphème, quel terrible blasphème de faire de Dieu, qui est un Dieu si bon, qui offre le salut gratuit à quiconque veut bien l'accepter, et qui le tourne à l'envers. Non, Dieu est bon. Et le paradoxe, que quand on est prêt à dire, nous, on ne le mérite pas, c'est Dieu qui l'offre, et c'est Dieu qui a besoin de le faire, et on l'accepte par la foi, en même temps qu'on dit aux gens, croyez en lui, acceptez-le, ça vous incombe de vous repentir et de croire, comme Dieu le dit. Eh bien, il y a un paradoxe là qu'on ne peut pas s'échapper. Mais on l'accepte par la foi, parce que Dieu est bon et Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu a permis le mal et Dieu a choisi que ceux qui se confient en lui ne soient pas atteints par le mal, que tout concourt au bien de ceux qui, aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Et que Dieu permet que le mal se fasse pour montrer la profondeur du cœur. Ceux qui continuent à choisir de faire le mal, ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Mais en même temps, Dieu est plus grand parce qu'il peut se servir du mal pour le bien de ceux qui croient en lui. Il n'y a qu'un Dieu qui est bon. Mais il y en a qui tournent la chose à l'envers pour faire que le Dieu bon, en fin de compte, il est l'auteur aussi du mal. Et c'est terrible. Alors nous voyons ici l'œuvre parfaite. C'est un Dieu qui commence et va finir ce qu'il commence. Pour qui? Pour ceux qui veulent bien reconnaître que c'est de lui, par lui et pour lui. Et ceux qui, en fin de compte, continuent à préférer les ténèbres à la lumière, ils ne vont pas avoir part à l'œuvre de Dieu. Ils ne vont pas faire partie de ce que Dieu aura commencé à faire une œuvre et de la finir. Donc ce que Dieu commence, il le finit. Ce que Dieu commence, il le finit. On sait que Dieu va ressusciter, pour ceux qui meurent avant que Jésus-Christ revienne, il va les ressusciter. Dans 1 Thessaloniciens 4:13, il parle justement que Dieu va venir et ressusciter d'abord ceux qui sont morts en Christ, et ensuite les vivants en Christ seront élevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Hébreux 12:23 parle justement de ceux qui sont partis à la perfection, les esprits qui sont déjà partis à la perfection. Hébreux 12:23. Il dit, ce n'est pas verset 22, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Quand on se convertit, c'est à ça qu'on s'approche. Et donc, la perfection attend au ciel. Ici-bas, on ne le verra pas. Et aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu, aussi mature qu'il devient, va être parfait. Même l'apôtre Paul disait clairement dans Philippiens 3, comme on l'a lu la semaine dernière, qu'il n'a pas atteint la perfection. Ça sera au ciel. Mais le point, c'est ceci. Le ciel est garanti, la perfection est garantie pour ceux pour qui Dieu a commencé une œuvre. Et quelle sorte d'œuvre? L'œuvre de grâce. L'œuvre de grâce, comme il dit, car vous aussi, vous tous, vous participez à la même grâce que moi. Alors, le jour de Jésus-Christ, c'est quand Jésus-Christ va accomplir tout, et tout finir, tout ce qui était promis de faire, et va donc glorifier ceux qui auront cru en lui, corps, âme, esprit, et il y aura la perfection totale, il n'y aura plus de lutte avec la vieille nature, il n'y aura plus de mauvais désirs, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'injustice, plus de mensonges, plus rien. Ce sera la perfection. Maintenant, deuxièmement, la raison de la confiance de Paul, son
amour pour eux.
Il dit donc, il est juste que je pense ainsi de vous parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense, la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. On l'a lu, Jean 13, 33, ben on l'a lu 34 et 35, il y a une erreur de référence, là c'est pas 33, 34, c'est plutôt 34, 35. 1 Jean 3, 1, ça on ne l'a pas lu, 1 Jean 3, 1. Est-ce qu'on a un volontaire pour lire 1 Jean chapitre 3, verset 1, c'est page 930, oui. Vas-y, oui, excuse-moi.
Que nous sommes, si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne nous reconnaît pas. Nous ne sommes qu'un parmi tant d'autres. Une religion parmi tant d'autres pour le monde. Ils ne reconnaissent pas les vrais enfants de Dieu comme tels, parce qu'eux-mêmes sont perdus. Verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et donc, et aussi au verset 14, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il a développé un peu plus loin, comme on l'a vu au chapitre 4, comment l'amour est de Dieu. Et ce quiconque aime est né de Dieu. Le vrai amour, pas simplement un amour selon ce monde. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont pu aimer leurs voisins, qui ont pu aimer les étrangers, des personnes qui se sont données corps, âme et esprit aux pauvres et qui ont fait toutes sortes de biens. Sans leur avoir communiqué le vrai évangile, c'est pas le vrai amour. On peut faire énormément de bien dans la société sans vraiment aimer. On a induit en erreur en fin de compte, parce qu'on communique aux gens le plus important, c'est que vous êtes mieux. Vous êtes mieux encore, vous êtes mieux. Vous êtes mieux. Et là, on se donne aux pauvres, on se donne sans connaître le vrai amour. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité en Jésus-Christ, que le plus important, ce n'est pas juste d'avoir assez de pain pour manger pour pouvoir vivre une journée. C'est plutôt pouvoir avoir la vie éternelle. Bien sûr, à quoi ça sert de donner la vie éternelle, donner l'évangile à quelqu'un qui meurt de faim? Oui, donnons-lui un sandwich, donnons-lui un bon repas, donnons-lui quelque chose pour pouvoir prolonger ses jours. Mais en lui disant que ça ne suffit pas. Cette nourriture qui lui donne un peu plus de temps sur cette terre ne fait pas grand-chose. C'est plutôt l'éternité qu'il lui faut. Et ça, c'est seulement le pain du ciel, Jésus, qu'il lui faut. Donc l'amour commence à donner aux gens le vrai évangile. C'est pour ça que toute la manifestation d'amour qu'il y a dans ce monde, ça tombe court. Parce que ça ne prend pas compte la vérité de l'évangile. C'est pour ça que le vrai amour commence avec la conversion, vraiment, à Jésus-Christ. Et c'est par cet amour qu'il y a, donc, il y avait cette complicité. Il y a cette complicité entre eux. Il y a cette complicité que Jésus-Christ enseigne. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous avez chacun vécu par rapport à qui vous étiez avant, des pécheurs perdus, sauvés par grâce. Et c'est pour ça que Paul dit, vous qui participez à la même grâce que moi. Vous savez, quand j'ai suivi la formation à temps plein pour le bus, eh bien, bien sûr, on nous signalait. Quand vous passez un bus, vous faites, vous flashez vos lumières, vous envoyez la main durant le jour, de quoi, mais vous faites signe. C'est un collègue. C'est un autre conducteur de bus. Vous avez remarqué les camions quand ils se croisent, les lumières ou le klaxon. Mais il y a quelque chose. Imaginez-vous si tous les automobilistes, quand on se croise, on se saluerait. Oh là, ça serait juste des salutations, inattendement. Donc, on ne le fait pas pour les automobilistes, mais c'est comme une confrérie entre les conducteurs de camions ou les conducteurs de bus. Là, il y a cette complicité. On a passé comme formation, maintenant on conduit le même genre de véhicule, allez, on se salue. Eh bien, Dieu nous appelle, quand on se convertit, à avoir cette complicité avec les autres croyants, les autres vrais croyants, et de vraiment voir, vraiment, est-ce qu'ils ont cru l'évangile? Oui, aimons-nous les uns les autres, bâtissons-nous les uns les autres, portons les fardeaux les uns les autres, confrontons-nous avec amour quand il y a besoin les uns les autres, formons une église ensemble, ayons une direction biblique, mais ensemble, en tant qu'église, aimons-nous les uns les autres. Et c'est ce que Paul ici le reconnaît. Vous avez participé à la même grâce que moi, et je vous porte dans mon cœur, il y a cette complicité. J'ai cette confiance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite pour Jésus-Christ. Alors, illustration, c'est le dernier mot qui vous manque. Comme les camionneurs, les chauffeurs de... Ah bien sûr, il fallait que je souligne ce mot, Parce qu'on s'est investi là-dedans, on n'a pas encore complété la chose, on a hâte, mais il y a cette complicité entre chauffeurs de bus. Mais la plus importante, ce n'est pas la complicité entre les camionneurs et les chauffeurs de bus, mais c'est entre les vrais chrétiens. Alors la conclusion. Avez-vous la même foi que Paul dans le Dieu qui agit, le Dieu qui commence une œuvre et qui la termine fidèlement? Est-ce que notre salut dépend de la force de notre foi? Il faut que je garde mon salut, il faut que je continue à croire comme il faut. Il y a beaucoup d'églises qui enseignent que notre foi est vraiment notre foi en notre foi. Non. La foi de Paul, c'est « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre-là, rendra parfait. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. » Par la foi, oui, la foi en la puissance de Dieu. C'est Dieu qui commence, c'est Dieu qui finit. Ah, on peut avoir cette assurance de notre salut parce que c'est l'œuvre divine. Est-ce qu'on a ce genre de foi-là? Ou est-ce qu'on a juste une foi religieuse qui, là, s'est centrée sur l'homme? Ah, il faut que je continue à croire. Ça dépend sur moi. Il faut que je croie, il faut que je persévère. Autrement, je vais perdre mon salut. Ça, c'est pas la vraie foi. Deuxièmement, avez-vous les marques que Dieu est à l'œuvre dans vos vies? Beaucoup de gens professent, beaucoup de gens disent beaucoup de choses par rapport à réclamer Dieu. Comme Jésus a averti, c'est pas tous qui disent « Seigneur, Seigneur, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu ». Il dit « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité ». L'œuvre de Dieu a cette marque qui a un changement de direction. Et là, il y aura un progrès, peut-être qu'il y aura des hauts et des bas, mais c'est lui qui, quand il commence, il va compléter au jour de Jésus-Christ. Et l'œuvre principale qui démarque ce progrès, c'est l'amour grandissant. Pas juste un amour pour entre nous, bien sûr, mais le sort d'amour qui fait qu'on peut aimer même nos ennemis. Ça, le monde ne connaît pas. Avez-vous vraiment les marques de vraiment connaître Dieu, d'avoir cette tendresse? Parce qu'il dit, il conclut, quelle sorte d'amour? Parce que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Un cœur tendre, un cœur de compassion. Bien sûr, quand il me convertit, on ne sera peut-être pas nécessairement la personne la plus tendre au monde, après plusieurs années de conversion. Mais il y a une tendresse que Dieu va développer de plus en plus et qui va finir par nous caractériser. Un cœur tendre, la tendresse de Jésus-Christ. Jacques 3 distingue la sagesse de ce monde, un zèle amer, avec la sagesse qui vient d'en haut. Elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Il y a cette tendresse de cœur, la tendresse de Jésus-Christ qu'on nous parle. Est-ce qu'on a ces marques-là? On va prier. Seigneur Dieu, on te prie de toucher les cœurs. Merci que c'est l'œuvre de Dieu qui compte. On te prie pour ceux pour qui ce n'est pas encore commencé. Toi, tu désires faire une œuvre de grâce en chaque cœur, Seigneur Dieu, que puissent les personnes perdues ce matin puissent se tourner vers toi complètement, en toute simplicité, de faire appel à toi, d'invoquer ton nom, Seigneur, en tant que pécheur perdu. Et toi, tu vas commencer une œuvre et tu vas la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Seigneur, on te prie que tu puisses aussi développer en ceux que tu as sauvés, que tu puisses développer en nous ces marques-là, de tendresse et d'amour. On te prie au nom de Jésus-Christ.